Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement tchèque est favorable à l'adoption du projet de budget européen pour 2014-2020. Le gouvernement toujours lui a approuvé le projet de budget pour 2013 qui prévoit un déficit de 4 milliards d'euros. Et puis enfin, le social-démocrate Milan Štěch a été réélu président du Sénat. Le gouvernement tchèque a fait savoir que le projet de budget européen couvrant la période 2014-2020 ne lui plaisait pas et qu'il allait s'efforcer de l'améliorer. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres le chef du gouvernement, Petr Nečas, qui participera au sommet européen extraordinaire ce jeudi et vendredi à Bruxelles. Toutefois, à la différence d'autres pays membres, la République tchèque n'entend pas opposer son veto, estimant qu'il n'est pas dans son intérêt que le budget ne soit pas adopté. La République tchèque refuse notamment une réduction du budget consacré à la politique de solidarité, dans le cadre de laquelle sont versées les subventions pour le développement des régions défavorisées. Récemment, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a proposé de réduire de 75 milliards d'euros le montant du budget pour 2014-2020. L'agriculture et l'aide aux pays les moins développés seraient les principaux secteurs touchés par cette éventuelle réduction. Le gouvernement a approuvé mercredi, le budget prévisionnel 2013 préparé par le ministre des Finances, un budget qui compte sur un déficit de 100 milliards de couronnes, soit environ 4 milliards d'euros. Ce déficit représente 2,9% du PIB. En deçà donc de la limite des 3% fixée par Bruxelles. Le projet de budget a par ailleurs été modifié à plusieurs reprises après l'adoption par les députés du paquet de stabilisation financière, un paquet qui comprend notamment une hausse d'un point des deux taux de TVA ou encore après que certaines prévisions de recettes fiscales aient été revues à la baisse. Politique toujours, comme attendu, le social-démocrate Milan Štěch a été réélu à son poste de président du Sénat, une institution où son parti détient la majorité absolue avec 46 sièges sur 81. Milan Štěch n'avait pas de concurrent et 79 sénateurs présents lors de ce scrutin lui ont accordé leur voix. Milan Štěch a donc également reçu le soutien d'une majorité de sénateurs civiques démocrates. Le centre d'entraînement aérien de l'OTAN en République tchèque sera probablement mis en service en 2015 ou 2016. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de la Défense, Alexander Vondra, à l'issue de sa rencontre à Prague avec son homologue américain, Leon Panetta. La création de ce centre avait été approuvée en mai dernier lors d'un sommet de l'OTAN à Chicago, préparé en collaboration avec la Croatie. Le projet prévoit la formation commune de pilotes d'hélicoptères et d'équipages au sol. La formation sera également axée sur la préparation de conseillers en aviation de l'OTAN qui seront ensuite chargés d'assurer la formation des forces afghanes. La base de ce centre d'entraînement se trouvera à Pardubice, en Bohême de l'Est, où s'entraînent déjà des pilotes afghans et américains. On passe au sport et au football. L'ancien international tchèque David Jarolím a résilié son contrat avec Evian Thonon-Gaillard. L'information a été communiquée par le club savoyard mardi. Selon le communiqué de presse, ce milieu de terrain a pris sa décision pour des raisons personnelles. Libre de tout contrat après 9 saisons passées à Hambourg en Bundesliga, David Jarolím était arrivé à Evian en août dernier, âgé de 33 ans. Il s'était alors engagé pour une saison. Depuis, il avait disputé 5 rencontres de championnat, mais avait disparu des feuilles de match lors des dernières journées. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très couvert dans une grande moitié nord-ouest et plus ensoleillé dans le sud-est qui règne ce jeudi en République tchèque, jour de la fête des Céciliers, donc Cécile en français. Les températures varient entre 5 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Première protestation conjointe des médecins dans le pays du groupe de Visegrad. Un soupçon d'espionnage pèse sur deux ressortissants tchèques détenus en Grèce. Tels sont le thème de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique Chapitre de l'Histoire, dans le cadre de laquelle Katerina Prouchova, de l'Université anglo-américaine de Prague, vous fera visiter le couvent Saint-Agnès, un des principaux monuments gothiques de la capitale tchèque. Merci de rester avec nous et bonne écoute. « Mardi, les médecins des quatre pays du groupe de Visegrad ont mené une action conjointe afin de protester contre la précarisation de leur profession. Une première qu'ils entendent bien réitérer si leurs revendications ne sont pas entendues. Anna Kubišta.
Mardi midi, environ un tiers des établissements hospitaliers de République tchèque ont débrayé pendant une demi-heure symbolique et pour la première fois, ils ont été soutenus par leurs voisins slovaques, hongrois et polonais. En effet, dans les autres pays du groupe de Visegrad, de nombreux médecins ont également choisi d'exprimer leur mécontentement face aux restrictions budgétaires qui touchent le secteur de la santé. Sauvons le système de santé, un système malade et dangereux pour nous, tels étaient les slogans fédérateurs des protestataires en République tchèque, des médecins mécontents qui, pour la première fois, ont également été soutenus par l'association des hôpitaux et des organisations de patients et de personnes handicapées. Tous sont inquiets de la disparition d'hôpitaux dont les contrats avec les compagnies d'assurance ne seront pas renouvelés. C'est le cas de ce médecin de Friedek Mistek.
Les compagnies d'assurance sont assises sur un paquet d'argent, mais cet argent est envoyé ailleurs que dans le système de santé. Nous, d'un autre côté, nous devons faire des économies sur des choses pour lesquelles il n'est pas possible de se serrer la ceinture.
Ce n'est de loin pas la première fois que le secteur de la santé tchèque fait connaître son mécontentement. En 2010 déjà, les médecins du secteur hospitalier avaient lancé une vaste campagne d'appel à la démission, menaçant le gouvernement d'un exode massif de docteurs vers l'étranger si leurs conditions ne s'amélioraient pas. Le ministère de la Santé, lui, estime qu'il ne peut pas renflouer davantage les caisses du secteur. Petr Nosek, vice-ministre de la Santé.
Le ministère de la Santé est le seul où les salaires ont augmenté, que ce soit ceux des médecins ou d'autres employés du secteur.
Des promesses avaient alors été faites, certaines étant remplies, mais la plupart étant toujours insuffisantes selon les protestataires qui renouvellent aujourd'hui leur mise en garde. Martin Mašek, radiologue à l'hôpital de Bulovka à Prague.
Nous travaillons à la limite de nos capacités. Nous sommes harassés par le travail. Comme les promesses d'augmentation de salaire ne sont pas entièrement tenues, nous ne voyons pas le bout du tunnel.
Hors des frontières du pays, dans les trois autres pays du groupe de Visegrad, on a également fait savoir son désarroi. En Hongrie, 10 000 médecins et employés médicaux ont participé au mouvement de grève d'une demi-heure. En Pologne, des dizaines de médecins ont manifesté devant leur ministère de tutelle. En Slovaquie, voisines, médecins, infirmières et sages-femmes ont protesté conjointement dans plusieurs villes du pays. Objet de leur malaise, les promesses non tenues du gouvernement de gauche qui les avait assurés de faire le ménage dans le secteur de la santé. Igor Tibensky, président du syndicat des médecins de l'hôpital universitaire de Bratislava.
Le manque de personnel et la surcharge de travail des médecins représentent une véritable menace pour la santé des patients.
Si les médecins ont décidé de ne protester qu'une demi-heure pour ne pas menacer le fonctionnement normal de leur service ainsi que les soins aux patients, ils se disent prêts à réitérer l'expérience d'une grève transfrontalière.
Deux ressortissants tchèques sont emprisonnés actuellement en Grèce. Les deux détenus sont soupçonnés d'espionnage. Leur situation ne s'améliore pas malgré les activités de leur famille qui cherche à mobiliser l'opinion publique en leur faveur. De même, les interventions de la diplomatie tchèque auprès des autorités grecques restent pour le moment sans effet apparent. Les tchèques Martin Pezlar, 28 ans, et Ivan Buchta, 30 ans, risquent des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Les autorités grecques leur reprochent d'avoir photographié des établissements militaires de l'île de Lemnos. Les deux hommes sont employés de la société Bohemia Interactive qui produit des jeux vidéo. Selon les premières informations largement diffusées par les médias, ils auraient pris sur l'île de Lemnos des photos qui auraient dû servir pour la création d'un nouveau jeu électronique. La société Bohemia Interactive a cependant nié que le séjour de ses employés en Grèce ait été un voyage d'affaires. Et les deux hommes eux-mêmes affirment maintenant être venus en Grèce pour un séjour privé et n'avoir fait que des photos touristiques. Malgré leurs déclarations d'innocence répétées, les deux prisonniers n'arrivent pas à sortir de l'engrenage de la justice grecque. Leur morale s'est notamment dégradée après l'échec d'une initiative visant leur mise en liberté sous caution. Les familles des deux hommes ont récemment critiqué la lenteur et l'inefficacité des démarches du ministère tchèque des Affaires étrangères, qui cherche pourtant à intervenir dans cette affaire. Leur critique a été rejetée par le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, qui envisage de s'entretenir sur le cas de deux prisonniers tchèques avec son homologue grec Dimitris Avramopoulos.
Je n'ai pas encore réussi à le contacter. Malheureusement, les dernières informations ne sont pas très bonnes. Autant que je sache, la déposition d'un témoin ne leur est pas favorable. Je tâcherai cependant de faire pour eux tout ce que je peux.
Karel Schwarzenberg avait déjà évoqué cette affaire lors d'une rencontre avec le ministre grec des Affaires étrangères en septembre dernier, et elle avait fait également l'objet de plusieurs démarches de diplomates tchèques, dont l'ambassadrice tchèque en Grèce, Hanna Shevchikova, qui était intervenue auprès du vice-ministre grec des Affaires étrangères. Ces activités n'ont cependant pas abouti. Le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères, Vít Koláš, explique quelle est aujourd'hui la stratégie de la diplomatie tchèque sur ce dossier.
En ce qui concerne les activités que le ministère poursuit au niveau diplomatique, nous cherchons surtout à éviter que cette affaire soit repoussée à plus tard à cause de la grève et de l'accumulation d'autres dossiers de la justice grecque. Nous voulons accélérer la procédure afin que nos ressortissants ne soient pas obligés d'attendre trop longtemps une éventuelle décision.
La presse grecque, qui prête à cette affaire bien moins d'attention que la média tchèque, semble convaincue que les deux détenus ont été chargés d'une mission d'espionnage par la Turquie. Selon les informations non confirmées des médias grecs, Martin Pezlar et Ivan Burta auraient parcouru la nuit l'île de Lemnos et photographié des bases militaires avec des appareils photo espions. Personne en Grèce ne semble douter que les deux Tchèques soient coupables et méritent une punition. Récemment, les pères de Martin Pezlar et Ivan Burta se sont rendus en Grèce pour visiter leur fils emprisonné. Ils ont constaté que les conditions dans la prison de l'île de Chios, où leurs fils sont détenus actuellement, sont très difficiles. Les deux Tchèques partagent leur cellule avec 22 autres personnes et ne disposent avec leurs co-détenus que de deux douches et de deux toilettes turques. Le moral des deux prisonniers est au plus bas. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Le couvent Saint-Agnès, Klášter svaté Anežky, est un îlot de paix en plein cœur de la capitale tchèque, construit à partir de 1233. C'est la première bâtisse gothique de Prague, une ville qui prend alors une certaine importance à mesure que se renforce le pouvoir des rois de la dynastie Přemyslide. Après avoir accueilli plusieurs ordres monastiques, le couvent est désormais utilisé par la Galerie nationale comme centre d'exposition de l'art médiéval d'Europe centrale. Et Katarzyna Pruchova, qui est justement lectrice, en plus d'enseigner l'histoire de l'art à l'université anglo-américaine, a gentiment accepté de nous faire visiter un endroit riche d'une histoire de près de 800 ans, une histoire liée à la figure charismatique de Sainte Agnès, Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Bien que situé en plein centre de Prague, il n'est cependant pas si simple de trouver le couvent Sainte-Agnès. Partant de la place de la vieille ville, les rues larges et aérées se font ensuite plus étroites et deviennent presque labyrinthiques à l'approche du lieu tant désiré. Cela rajoute au caractère enchanteur de ce quartier surnommé Nafrantišku, où le silence et la rareté des passants permettent à la fureur citadine de laisser place à une douce quiétude. C'est à la tombée de la nuit que Katarzyna Pruchova, qui nous avait déjà accompagnés lors de la visite de l'épopée slave, l'œuvre majeure d'Alphonse Mucha, nous y accueille. Changement d'époque et d'atmosphère avec ce bâtiment remarquable construit dans la première moitié du XIIIe siècle et qui a d'abord accueilli un ordre monastique féminin. Katarzyna Pruchova.
Ça, c'est un couvent d'un ordre féminin. C'était une branche féminine des franciscains. Et c'était un couvent qui était réservé pour les femmes. Et c'était joint avec un autre couvent qui était pour les frères franciscains, pour les frères mineurs. Donc c'est une chose intéressante. Il y avait des couvents joints parce que les serfs ne pouvaient pas mener la messe. Donc les frères mineurs étaient là pour faire prêtre pour les sœurs, pour médier le contact avec le monde extérieur pour les sœurs.
Il s'agit de l'ordre des Clarisses, appelé également l'ordre des pauvres dames, mis en place par Claire d'Assise à la demande de saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre des franciscains, lequel prône de mener une vie humble dédiée à la prédication. En Bohême, c'est sainte Agnès qui fait la demande de construire un couvent auprès de son frère, le roi Venceslas Ier, un souverain qui marque la montée en puissance de la dynastie des Przemyslides. Ces derniers règnent en Bohême et en Moravie depuis la seconde moitié du IXe siècle. Katarzyna Pruszowa nous dresse le portrait de sainte Agnès de Bohême.
Sainte Agnès, c'était une princesse de la famille Przemyslide, comme j'ai déjà dit. Et sainte Agnès, on lui a proposé de marier un empereur, un roi d'Angleterre, pour marier sainte Agnès, mais elle a refusé. Elle les a refusés en disant qu'elle est déjà mariée avec un souverain bien plus important, avec Christ. Donc elle a préféré la vie monastique à la vie séculaire. Elle a renoncé à la richesse. Et elle a choisi de vivre modestement dans ce couvent. En fait, sainte Agnès, elle a mené une correspondance avec sainte Claire d'Assise. Sainte Claire d'Assise, qui était une autre noble dame, qui a suivi la personnalité charismatique de saint François d'Assise.
Les parties du bâtiment à laquelle nous avons accès est constituée d'un oratoire et de deux églises. La visite commence par la plus petite d'entre elles, l'église de saint François.
On se trouve actuellement à l'église de Saint-François qui date des années 30, donc de la première phase de la construction. Vous voyez qu'il y a des fenêtres assez simplifiées, des bases, des colonnes très simplifiées. Et donc ça, c'était l'église pour les franciscains. Et ici, derrière cette porte, il y avait le couvent. Il y avait le cloître pour les franciscains qui existe encore, mais c'est en ruine. Aujourd'hui, on ne les visite pas. Et l'église continue dans cette direction, mais là, c'est un nouveau toit complètement. On utilise cet espace pour la lecture, pour les concerts.
Parce qu'il y a encore des gens, des religieux qui vivent ici ou qui travaillent ici?
Non, c'est désacralisé depuis le XVIIIe siècle, depuis la réforme de Joseph II, ce couvent ne fonctionne plus en tant que couvent. Et aujourd'hui, c'est la Galerie nationale qui l'utilise. Donc on ne mène plus de messes ici.
L'empereur germanique Joseph II décide de fermer le couvent en 1782, une mesure qui s'inscrit dans la volonté de réformer l'église pour la placer sous l'autorité de l'État. Le monastère était déjà resté inoccupé par le passé, après les guerres hussites qui voient le bâtiment amputé de sa partie sud. Les dominicains s'y installent au milieu du XVIe siècle, dans une ville où le protestantisme séduit pourtant de plus en plus. Les tensions entre communautés religieuses connaissent un paroxysme au début du siècle suivant et s'achèvent par la prise de pouvoir des Habsbourg après la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Ils rétablissent le culte catholique dans les pays tchèques, en conséquence de quoi les sœurs de l'ordre des Clarisses se réapproprient le couvent en 1626. Nous poursuivons la visite avec la seconde église, celle de Notre Sauveur. Construite près de trois décennies après celle de saint François, l'église de Notre Sauveur est marquée par une plus grande maîtrise du style gothique.
On se trouve à l'église de Notre Sauveur actuellement, qui était construite dans les années 60 du XIIIe. Et on voit cet arc triomphal avec la tête des rois et des reines de la famille Przemyslide. Donc ça, il s'agit de quelques premières statues de l'art gothique chez nous, ces premiers bustes. Vous voyez dans cette église de Notre Sauveur que la décoration des fenêtres c'est beaucoup plus développée que dans notre église.
À un certain niveau, une différence de couleur se fait très visible sur les murs. C'est la conséquence des inondations d'août 2002 qui n'ont pas épargné le couvent. Il semble avoir été noyé sous au moins un bon mètre d'eau. Au sol se trouve une tombe. Katarzyna Pruszowa ne se souvient plus du nom de la personne dont la sépulture se trouve à cet emplacement, mais elle nous précise que cette église a tenu pendant un certain temps un rôle particulier.
En fait, celui-ci a conçu cette église en tant que mausolée de leur famille. Un peu plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, Václav II a décidé que le lieu d'enterrement des rois de Przemyśl sera Breslav, un peu sur le... Il a suivi l'exemple de Saint-Denis. Breslav, c'est devant Prague, c'est au sud de Prague. Donc, il a fondé un couvent cistercien, Breslav, et les rois de Przemyśl étaient enterrés ensuite là-bas. Et sous Charles IV, le tombeau du roi de Przemyśl était placé à la cathédrale Saint-Guy. Il y a quelques rois qui sont enterrés ici, comme Václav Ier, il y a le tombeau de Sainte Agnès.
Cependant, ce tombeau de Sainte Agnès est vide et le corps de la religieuse est introuvable. Celle-ci jouera encore un rôle inattendu près de 8 siècles plus tard, quand elle sera canonisée. Cette canonisation a été l'un des événements déclencheurs de la révolution de velours, qui est venue à bout du régime communiste en novembre 1989.
Sainte Agnès a été canonisée en 1989. Il me paraît que c'était le 13 novembre. Vous savez que 1989, c'est l'année de la révolution de velours qui a commencé le 17 novembre. Donc la canonisation de Sainte Agnès a précédé de quelques jours seulement. Et de ce pays qui est réputé athée, il y avait des dizaines, des milliers de croyants qui allaient à Rome à cette occasion pour assister à la canonisation qui était menée par Jean-Paul II. Et lorsqu'ils sont revenus, il y avait beaucoup de monde qui a déposé les fleurs. Près de la statue de Sainte Agnès, sur la place Venceslas, il y a la statue équestre de Saint Venceslas, entourée de 400 patrons de Bohème, inclus Sainte Agnès. Donc, ils ont déposé des bouquets de fleurs. Mais c'était interdit sur le communisme, donc ils pouvaient avoir facilement des problèmes avec la police secrète. Et la police a enlevé ces bouquets à chaque fois, mais il y avait ces fleurs à nouveau. Donc ça a déclenché, on peut dire vraiment que cette canonisation, ça a déclenché de quelque manière les événements de la révolution de velours.
Katarzyna Pluszowa nous précise d'ailleurs qu'une légende courait selon laquelle la canonisation de Sainte Agnès provoquerait un changement positif dans le pays, une légende que chacun reprendra ou non à son compte en fonction de ses opinions. Quant à nous, nous reviendrons dans une prochaine rubrique historique, et toujours avec Katarzyna Pluszowa, sur la collection d'art médiéval exposée dans ce couvent Sainte Agnès, une collection dont les peintures sur bois constituent quelques-uns des joyaux. Mais il ne faut pas hésiter à prendre les devants et ne pas attendre pour aller visiter cet endroit fascinant.
Katarzyna Pluszowa vous a fait visiter le couvent Sainte Agnès situé au cœur historique de la capitale tchèque. Cette émission vous a été proposée par Pierre Maignan. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes en texte et en audio sur www.radio.cz/fr.